Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Adèle Blanc-Sec, Julie Bonimono, se fait trouver l'amour, revient aussi sec. Natacha, sa vie est beau et court, elle brûle comme un four, on reste baba. Spirou en caisse dans l'allégresse, Tintin s'éternise dans sa jeunesse. Astérix, Baba dans Cérix, comment j'abandonne.
Il y aurait comme un hic dans les comics ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, première émission de notre semaine qu'on a voulu consacrer à 40 ans de chansons françaises. Il sera question aujourd'hui de punk, de rock, de variété, de chansons à texte, de bandes dessinées, d'Équateur, de Bolivie et même d'Hergé. Avec Kent, rétrospective en 14 CD de ses albums solo depuis 1982 et tentative ce soir d'entrer dans la tête d'un chanteur, ça tombe bien, c'est le titre de son livre, Benoît Lagan.
Kent interprétera deux titres en direct, Tous les mômes et Notre amour, l'occasion de revenir sur l'aventure humaine de l'auteur de J'aime un pays où les vrais gens, afin de nous assurer que non, il n'est pas qu'une chanson.
J'aime pas tellement l'expression aventure humaine, vous le savez. 19h35, plateau BD avec Didier Tronchet qui signe Le Monde du Dessous, un album entre récits historiques et contes pour un auteur qui a participé au renouvellement de l'humour dans la bande dessinée, Manu Farine.
Après l'Équateur et le très autobiographique Vertige de Quito, escale sur les hauts plateaux boliviens pour une fable politique sud-américaine donc, par celui qui se voit d'abord comme un écriveur d'images.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre d'abord sur le son du jour.
Le chiffre est assez simple à retenir parce que malheureusement il ne bouge pas beaucoup d'une année sur l'autre. On est autour de 20%. 20% de la parole des expertes et des experts que vous entendez dans les médias tous les jours, toute la semaine, toute l'année, sont des femmes. 80% sont des hommes.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Oui, on entend Caroline Haas ce matin, créatrice du site experte.eu. Un site qui a été lancé aujourd'hui et qui recense un millier d'expertes, femmes, dans absolument tous les domaines de l'écologie à la politique, en passant par la sécurité, l'international ou la culture. Un site dont France Télévisions et Radio France sont partenaires. Caroline Dehaas, vous l'entendez, a créé ce site à partir d'un constat alarmant. 80% des experts interrogés dans les médias sont des hommes. Le chiffre n'a pas bougé depuis bientôt une dizaine d'années. Il peut s'expliquer par deux facteurs. Un, les médias, par automatisme et facilité, ont tendance à appeler les experts qu'ils connaissent déjà, qui sont souvent des hommes, la plupart du temps, mais
c'est surtout toujours les mêmes qui reviennent, de toute façon.
Voilà. Mais plus inquiétant par ailleurs, les femmes expertes, quand on les interroge, s'auto-censurent. Elles ont tendance à ne pas se sentir légitimes et à réorienter les journalistes vers leurs collègues masculins. Donc, en plus de fournir un annuaire d'expertes femmes aux journalistes, experte.ue va aussi proposer aux nouvelles expertes qui vont s'enregistrer sur le site une formation aux médias si elles le désirent pour avoir plus confiance en elles.
Et la confiance, vous n'en manquez pas, Zoé Sfez. Tout de suite, on passe au dossier du jour consacré à la bande dessinée. Ce week-end avait lieu le festival de bande dessinée d'Amiens et toute la profession, auteurs, dessinateurs, éditeurs et libraires, se sont retrouvés pour un débat organisé par les États généraux de la bande dessinée. C'est une association qui avait été créée lors du dernier festival d'Angoulême pour tenter de sauver le secteur de la BD et surtout les auteurs économiquement à bout de force.
Oui, rappelez-vous, je vous en avais parlé lors du dernier festival d'Angoulême. C'était une première. Les auteurs de BD avaient défilé dans la rue avec en tête parmi des plumes célèbres, notamment Pénélope Bagieu qui avait été un peu tête de file. Ils étaient vent debout contre la réforme de leur retraite imposée par Bruxelles qui obligeait tous les auteurs à cotiser à hauteur de 8%, alors que certains jusqu'ici cotisaient vraiment au minimum. Pour certains en grande difficulté financière, cela équivalait carrément à un mois de salaire. Cette réforme a été en fait un déclencheur pour Denis Bajram. Il est auteur de BD et secrétaire des États généraux de la BD. Écoutez-le.
La réforme des retraites, ça a été vraiment le seau d'eau qui a fait déborder le vase. On s'est aperçu à cette occasion-là qu'énormément d'auteurs de bande dessinée avouaient être totalement précarisés depuis pas mal de temps et que c'était de pire en pire. Donc ça a vraiment posé des questions au sein du milieu de la bande dessinée, entre auteurs, et on a été quelques auteurs cet été à se dire on peut pas continuer comme ça. Dès qu'on nous commence des discussions sérieuses, on s'aperçoit qu'on a ni chiffres, pas de données, pas d'analyse sociologique, on sait même pas combien d'auteurs on est. Fondamentalement, personne aujourd'hui ne peut dire le nombre d'auteurs de bande dessinée. Et vraiment, la première question qu'on s'est dit, mais comment pourrait-on faire pour déjà avoir un état des lieux précis? Donc l'idée des états généraux est née de là.
Si l'on sait si peu de choses du secteur de la bande dessinée, c'est qu'il a longtemps fonctionné tout seul.
Oui, un peu en vase clos. Longtemps, la BD a été un secteur porteur où tout le monde en fait mangeait à sa faim. Un secteur en plein essor jusqu'au début des années 2000 qui fonctionnait un peu replié sur lui-même. peu de subventions, pas de subventions de l'État, et surtout une façon de travailler complètement atypique qui aujourd'hui met les auteurs en difficulté. Denis Bajram.
Moi, ce qui m'a surpris le plus quand j'ai commencé à avoir des réunions dans les ministères avec le CNL, c'est qu'on a réalisé qu'en face de nous, les gens n'avaient pas compris complètement que les auteurs de bande dessinée étaient des professionnels. On n'est pas du tout dans le système de la littérature générale où peu d'auteurs ont d'avance sur droit, peu d'auteurs ne vivent que de ça, les trois quarts sont professeurs, journalistes, et c'est un revenu complémentaire, la littérature. Dans la bande dessinée, la grande majorité des auteurs et des livres qui sortent sont faits par des gens qui passent un plein temps à faire de la bande dessinée toute l'année, et qui ont donc besoin d'un revenu qui correspondrait à un plein temps. Ça a relativement fonctionné pendant toute l'époque de la presse, parce que les journaux assuraient l'équivalent salaire, et puis les albums rapportaient un peu par-dessus. Il y avait peu d'auteurs, il y avait, on dit à l'époque, 700 auteurs, c'était voilà une petite communauté. Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres, mais c'est entre 1500 et 4000 selon les comptages. Il y avait surtout 700 nouveautés par an. Aujourd'hui, on est passé à 4000 nouveautés par an, voire 5000. C'est un changement qui veut dire que il faudrait avoir multiplié aussi par 8, par 9 le nombre de lecteurs.
La situation est telle qu'aujourd'hui, on parle de surproduction en matière de BD.
Oui, et ce, alors que cette production extrêmement riche devrait être perçue justement comme une richesse, comme une force. La France produit le plus de BD juste derrière le Japon au monde. La BD française s'exporte extrêmement bien, mais les grands auteurs arrivent, eux, à s'en tirer. Les éditeurs aussi, puisqu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, le coût de l'impression a baissé. Et puis, beaucoup d'auteurs sont aujourd'hui leurs propres coloristes. Mais pour les auteurs, c'est une vraie catastrophe. Le but de ces états généraux de la BD, c'est justement de mobiliser l'État pour peut-être commencer à demander des subventions pour la BD comme pour tous les autres arts, car il y a vraiment urgence. Denis Bajram.
Par exemple, on nourrit beaucoup d'autres industries culturelles, le cinéma, pour les livres qui sont adaptés, mais aussi tout bêtement toute une ambiance créative, on nourrit le jeu vidéo, on nourrit le dessin animé, inévitablement, etc. On est vraiment un espèce de cœur vivant au milieu de beaucoup de formes d'art populaire en général en France. Mais si ce cœur commence à plus pouvoir battre tout seul, il va falloir aussi qu'on accepte d'avoir un petit pontage coronarien de temps en temps, quoi. Voilà. Donc, moi, ça me rend assez malheureux parce que j'ai vraiment connu une bande dessinée qui justement ne devait rien à personne et on faisait ce qu'on voulait. Et ça, c'était une liberté incroyable. Je sais bien que si on se rapproche de certains institutionnels, on y perdra certaines libertés en en gagnant d'autres. C'est inévitable. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Il faut absolument sauver cette bande dessinée parce que c'est aussi toute une dynamique créative, graphique en France, narrative aussi, qui a besoin d'être soutenue parce qu'on pourrait beaucoup y perdre. Je n'ai pas envie de devenir un dessinateur de comics américains. Voilà, en clair.
Voilà, alors les protestations des auteurs de BD, en tout cas sur la réforme des retraites, a été entendue par le ministère de la Culture, qui a décidé d'ouvrir les négociations avec le RAP, donc le régime de retraite des auteurs. Des propositions pour baisser le fameux pourcentage de prélèvement de 8 à 4% semblent en bonne voie. Et en parallèle, les états généraux de la BD ont commandé plusieurs rapports à plusieurs comités scientifiques qui rendront leurs résultats dans les mois qui viennent.
Didier Tronchet, vous qui êtes auteur de bande dessinée, peut-être un commentaire sur cet aussi alarmant que l'on vient d'entendre,
En tout cas, il y a un grand paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu une créativité aussi importante dans la bande dessinée. Vraiment, il y a des talents incroyables qui naissent. Et malheureusement, de plus en plus d'auteurs qui n'en vivent plus. Et c'est assez dangereux, parce que si ça devient un métier où on est un peu amateur, un peu en marge, on ne peut plus consacrer la même créativité à ce médium. Et moi, je trouve ça effectivement inquiétant.
Vous avez perçu, vous aussi, une année où tout a basculé. Zoé parlait du début des années 2000. C'est là, pour vous aussi, les choses ont commencé à changer?
Absolument. Moi, j'ai connu l'âge d'or des années 90, où vraiment, il y avait une effervescence incroyable. Et puis, il se trouve que je suis parti à l'étranger pour 3 ans. Quand je suis revenu, j'ai vu autour de moi que des auteurs dont les revenus étaient divisés par 4, 5, 6, dont les miens d'ailleurs, au passage, je m'en suis aperçu. Donc, effectivement, il y a eu un grand renversement à cette époque.
Kent, je sais que vous avez aussi tâté de la bande dessinée, et pas qu'un peu. À un moment donné, vous aviez arrêté pendant toute une longue période. Pour quelle raison ?
J'ai arrêté pour des raisons diverses. Les premières, c'était que... Enfin, non, pour 3 raisons, en fait. Ou 2.
Il va falloir choisir. Allez, on en prend 2.
Non, d'abord, je travaillais au journal, au magazine Métel Hurlant. Ouais. Donc, avec les humaines et d'associés, première formule. Et cette première formule, en fait, s'est arrêtée en route. Voilà, pour faillite ou j'en sais rien. Ils ont été rachetés et tout. Donc, c'est tombé à l'eau. J'avais un pied chez Futuropolis aussi, de l'époque d'Étienne Robial, chez qui j'ai fait quelques albums. Et lui, c'est pareil, s'est retrouvé à vendre Futuropolis à Gallimard. Et dans le même temps, mon compagnon de jeu, Philippe Bernalin, qui était avec qui j'ai fait de la bande dessinée depuis le lycée, qui était plus ou moins mon scénariste, est décédé, voilà, très jeune. Donc c'est arrivé tout en même temps. Donc je me suis dit, c'est un signe. Je vais peut-être me consacrer plus à la musique. Voilà.
Et quand vous avez repris la BD, c'était dans quelle année à peu près?
Reprendre la BD, j'aimerais bien, mais j'ai pas trop le temps. Disons que j'ai fait une nouvelle incursion dans la bande dessinée en 2008 avec un album.
Un album en même temps.
Voilà, L'homme de Mars, qui était un livre disque que j'ai à la fois composé et dessiné, et qui était une belle aventure. C'était marrant de me rendre compte qu'après presque 20 ans d'arrêt, quand je me suis remis au dessin, c'est comme si j'avais évolué, comme si j'avais continué à dessiner pendant 20 ans. Je dessinais plus du tout pareil.
C'est pas mal, on y reviendra tout à l'heure. On continue. Avec les brèves, Zoé, on continue.
Et l'on ouvre avec cette décision de justice. Information BD toujours importante pour les fans de Tintin. La cour de l'AE a finalement donné raison à l'association RG. Genelschap ce week-end dans l'affaire qui l'opposait à la société Moulinsart, puisque Moulinsart, gestionnaire des droits de RG, avait attaqué RG Genelschap, cette association de fans de Tintin, pour utilisation illégale de l'image de Tintin, car le club de fans néerlandais utilisait des reproductions de l'œuvre d'RG dans deux de ses revues qui paraissent trois fois par an. Une décision importante pour tous les tintinophiles, ils sont nombreux qui pourront donc réutiliser les vignettes.
La comédie musicale Un Américain à Paris a remporté 4 Tony Awards.
Ce sont les équivalents pour l'art dramatique des Oscars du cinéma. Première adaptation scénique du film aux 6 Oscars, Un Américain à Paris, a été coproduit par le théâtre parisien du Châtelet en association avec les producteurs américains Van Clappen et Stuart Token. Il était nommé dans 12 catégories. Il a gagné la meilleure chorégraphie remise au metteur en scène Christophe Wildon. Il remporte aussi le prix de la meilleure orchestration, des meilleurs décors et des meilleurs lumières.
Et la dernière.
La dernière, c'est une histoire. Une histoire de stars françaises de la chanson qui ne sont pas toujours celles que l'on croit. Et oui, car dimanche, c'était le dernier jour du MIDEM, fameux marché du secteur musical qui est un petit peu à la musique, ce que le Festival de Cannes est au cinéma. Alors, on y a parlé beaucoup streaming, droit numérique, je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais c'est aussi lors de ce fameux MIDEM que la SACEM donne le top 20 des chansons francophones les plus rentables à l'étranger. Alors, certaines, les années précédentes, il s'était avéré qu'on pensait que c'était David Guetta qui était totalement leader sur le marché. Eh bien, pas du tout, puisque le roi, toujours the king de l'exportation des chansons françaises, c'est Claude François, toujours avec, comme d'habitude, grâce aux interprétations de Paul Anka et Frank Sinatra. Alors, derrière lui, c'est là qu'il y a un mystère, c'est pour ça que cette histoire est drôle, arrive l'improbable Dansa Kuduro de Don Omar featuring Lucenzo. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'est une chanson, visiblement, de house, qui fait fureur aussi bien en Russie qu'au Japon, dans des pays où il y a beaucoup de gens, bien que nous l'ayons quasiment jamais entendu en France. Reste ensuite les Feuilles mortes en quatrième position, La vie en rose, et David Guetta, quand même, arrive à se classer en 19e et 20e place. Il est juste derrière Martin Solveig.
Merci. Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Kent et Didier Tronchet? Didier Tronchet.
Ouais, moi, je suis juste un peu embêté qu'un type un jour ait épousé la veuve d'Hergé,
ah ouais.
Que ce soit accaparé le droit de décider qui pouvait reprendre ou pas les images. Bon, bien sûr qu'il n'est pas dans le domaine public, mais pour nous, lecteurs, si, il l'est quand même.
De votre côté, Kent, vous lui donnez une partie de votre nom d'ailleurs. Vous lui devez une partie de votre nom.
Alors, dites pas ça parce que je vais finir par me faire interdire de.
Ah, il y a eu Kent Kokenstock.
Oui, Kokenstock, c'est un pseudonyme que j'ai pour la SACEM justement, parce que quand j'ai déposé mon pseudonyme, parce que c'en est un, Kent. Je m'appelle pas Kent dans la vraie vie. Pour mes premières chansons à la SACEM, on m'a dit mais des Kent, des vrais, il y en a déjà, donc faudrait que vous trouviez un nom un peu plus original pour pouvoir toucher vos droits. Et le premier nom, enfin premier mot qui m'est venu en tête, premier titre, c'était Coq en stock.
Mais il y en avait eu un autre aussi, Hutchinson.
Hutchinson, mais alors ça date du lycée, honnêtement. Ça, si, en bande dessinée. Je l'ai utilisé en bande dessinée, effectivement. Effectivement. C'est compliqué, hein.
Et Kent, pour quelle raison vous avez choisi Kent? Ça vient de quoi?
On a deux heures d'émission, parce que...
Tout à l'heure, vous aviez trois raisons, c'est de donner à deux.
L'histoire en version longue est intéressante, mais en version courte, je suis pas sûr. Non, mais disons que c'était au moment où j'ai fondé le groupe Star Shooter avec mes copains.
Dans les années 70, oui.
Voilà, dans les années 70. Évidemment, on s'est appelé Star Shooter parce qu'on faisait du rock et qu'à l'époque, il fallait que ça sonne anglo-saxon, que tout sonne anglo-saxon, d'où le nom, déjà. Et on s'est dit, tiens, ce serait marrant aussi qu'on ait des pseudonymes anglo-saxons, mais des pseudonymes qu'on voit que c'est de la triche, quoi. Donc, le batteur s'est appelé Pressing, par exemple, le bassiste Mickey, voilà. Et puis moi, je me suis appelé Kent parce que...
Vous en êtes bien sorti, quand même.
Oui.
Hein, parce que vraiment, entre Pressing et Mickey,
j'étais le dernier à choisir. J'ai mis du temps à trouver le nom. C'est parce que à cette époque-là, j'avais une correspondante roumaine que je suis allé visiter. C'était en 75, en Roumanie, donc à la sinistre époque de Ceausescu. Et j'allais dans les magasins pour touristes où il y avait tout, contrairement aux magasins pour roumains où il y avait rien. J'allais pour elle et sa famille acheter des cigarettes Kent qui servaient de monnaie d'échange au marché noir, en fait. Voilà.
Didier Tronchet, vous, pareil, hein, c'est pas votre vrai nom, c'est un pseudonyme. Comment vous l'avez bâti?
Ben, je suis passé un jour. Moi, j'étais journaliste à l'époque et c'était difficile d'avoir les deux identités réunies sous le même nom. Donc, j'ai choisi tout à fait pour déconner un pseudo ridicule que j'avais trouvé sur une plaque de rue en passant rue Tronchet à
près de l'Opéra.
Paris.
Ouais.
Voilà. Je trouvais ça rigolo ce nom que personne ne s'était attribué. Victor Hugo s'était pris, De Gaulle aussi. Donc, personne ne savait qui était ce Tronchet. Donc,
et alors, voilà, c'est qui Tronchet? D'accord. Ben, c'est parfait.
Non, c'est pas moi. C'est l'avocat de Louis XVI, donc c'était déjà un loser.
Le rendez-vous.
J'aurais pu devenir un slogan publicitaire, le plaisir d'un bon mot, un échange épistolaire, ou l'envol au long cours d'un roman profond. Mais je suis une chanson.
Plateau, idole exemplaire avec vous Kent, donc auteur, compositeur, interprète, un parcours qui commence dans la musique dans les années 70 comme chanteur du groupe Starshooter avant de basculer dans les années 80 en solo. Aujourd'hui, vous publiez votre intégrale en 14 CD sous le label Capitol, l'occasion de revenir sur plus de 200 chansons avec des titres comme Partout c'est de la merde, J'aime un pays, Un peu de Prévert, Juste quelqu'un de bien, À quoi rêvons-nous encore, Je ne suis qu'une chanson, dont on vient d'entendre très court extrait. 14 CD, que des albums studio que vous conseillez d'écouter dans l'ordre de production. Pour quelle raison? Pour qu'on comprenne bien l'évolution du répertoire,
c'est un peu comme si on lisait l'autobiographie d'un auteur. On commencerait pas par le chapitre de fin ou au milieu. C'est quand même intéressant de savoir comment ça a démarré et pourquoi ça a évolué comme ça. Parce que c'est une aventure musicale que je vis. Disons qu'il y a des. Je pense que si on prend je veux pas citer d'exemple, mais disons qu'il y a des chanteurs qui ont toujours le même style toute leur vie. Donc ça, si on prend Johnny Cash ou Georges Brassens, on peut prendre Dans le désordre, ça change pas grand chose, quoi. Dans le mien, je crois que c'est vraiment important de voir la continuité comme ça du début à la fin, parce que j'évolue, parce que je passe d'un truc à l'autre, je m'amuse, quoi.
Benoît.
Alors à ce coffret s'ajoute un livre, Dans la tête d'un chanteur, paru aux éditions Castor Astral, où vous racontez les différentes approches du studio, notamment enregistrement avec l'orchestre au complet, ou alors l'enregistrement instrument par instrument, puisqu'il est question là d'enregistrement studio. Quelle méthode a votre préférence, Kent?
Avec l'orchestre, enfin avec les musiciens, quoi. Je préfère le live en studio, vraiment, honnêtement. Maintenant ça va, je me sens mieux, je peux aussi faire du coup par coup comme ça, avec piste par piste, on va dire. Mais pendant des années, c'était pour moi une souffrance de le faire, quoi. J'avais l'impression de rentrer à l'hôpital. C'était désincarné totalement, quoi. Je voyais pas où on allait en faisant dans cette méthode. D'autant plus qu'en général, quand on fait cette méthode-là, la dernière chose qu'on place une fois qu'on a un playback parfait, c'est la voix du chanteur. Donc on a vraiment l'impression de déranger. On se dit, je me mets où est ma place, quoi. Alors qu'on devrait commencer par le chanteur, puis mettre les autres autour. Mais bon, voilà. Donc c'était un peu compliqué pour moi à un moment.
À propos de l'expérience du studio, vous dites que l'approche doit être autant technique que psychologique. Ça, on a bien compris. Quels ont été les enregistrements qui ont été le plus difficiles, peut-être techniquement et ou psychologiquement, Kent?
Ben, psychologiquement, c'est un peu ce que je viens de dire. C'était mes enregistrements du début. Non pas au début de Starshooter, parce qu'il fallait nous prendre en live, on ne savait pas jouer autrement. Mais après, quand on a commencé effectivement à faire piste par piste, la batterie d'abord, la basse après, là, c'est devenu compliqué. J'ai un peu souffert de ça pendant quelques années, quoi. Et donc, avec ce truc de se dire, d'avoir cette impression d'être une pièce rapportée quand on a au moment de faire les voix, quoi. C'est vraiment compliqué. Et techniquement, je sais pas si j'ai eu vraiment des difficultés. Maintenant, il n'y en a plus des difficultés. De toute façon, ça s'est tellement démocratisé, les prises de son, qu'on peut faire un disque chez soi. Donc, le confort le plus simple marche. Alors qu'avant, il fallait rentrer dans un studio et tout ça, quoi. J'ai pas de souvenir. Ou alors si, une anecdote que je raconte peut-être dans le bouquin, où je me suis retrouvé avec un producteur que la maison disque avait choisi une semaine avant que je rentre en studio, et quelqu'un de très bien, quoi. Mais on a commencé à enregistrer, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc au bout du deuxième jour, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je le vire, quoi. Et c'était affreux. C'est affreux de virer un producteur, parce que je lui disais, mais je vous estime beaucoup, mais ça va pas du tout, quoi. Et je suis tombé dans les pommes à la fin de la journée, tellement c'était tendu pour moi. Enfin bon, ouais.
On va vous laisser regagner le micro du studio 108.
Voilà pour un live en direct donc de la Maison de la Radio. Vous êtes accompagné par Marc Haussmann au piano et vous allez nous interpréter Tous les Mômes, un extrait de votre quatrième album solo. L'album, c'est Tous les Hommes. Il était paru en 1991. Quinte, c'est à vous.
Veulent devenir des hommes, la cigarette au lieu du bubblegum, avoir une auto et mettre la gomme, être un champion à tous les critériums. Tous les mômes veulent devenir des hommes, ils nous voient toujours plus beaux que nous sommes, ils ne se contentent pas du minimum, vivre et aimer toujours au maximum. Tous les mômes ont une belle idée des hommes, ils savent nous faire oublier ce que nous sommes. Si on sait redevenir haut comme trois pommes, chacun de nous pourrait être au sommet. Mais là j'ai le temps, racole les petits mômes. Au fil du temps, ça donne les petits hommes. Au décorum, tous les mômes veulent devenir des hommes, grands comme le plafond du planétarium, avoir une fusée et mettre la gomme, tuer les dragons du pandémonium. Tous les mômes ont une belle idée des hommes, ils n'ont pas besoin de curriculum. Pas besoin non plus de faire un référendum, chacun de nous pourrait être au summum. Mais là j'ai le temps, racole les petits mômes. Au fil du temps, ça donne les petits hommes au décorum. Écoute cœur de môme qui bat encore. Écoute, ce cœur de môme espère encore. Écoute, ce cœur de môme jusqu'à ta mort. Jamais, jamais n'abandonnera tes rêves de chercheur d'or. Tous les hommes veulent redevenir des mômes, replonger dans des rêves polychromes, les jeunes au couvert de mercure au chrome, médaille en chocolat pour tout diplôme. Tous les hommes ont une belle idée des mômes, tant pis si sous le lit y a des fantômes. Si on sait redevenir haut comme trois pommes, chacun de nous est au summum. Mais là j'ai le temps, raccord les petits mômes. Au fil du temps, ça donne les petits hommes au décorum. Pourtant tu n'aimes pas le décorum. Pourtant ça ne te plaît pas le décorum. Pourtant, tu n'en veux pas du décorum.
Merci. C'était Quinte accompagné au piano par Marc Haussmann en direct du studio 108 de la Maison de la Radio. On vous retrouvera tout à l'heure pour un deuxième titre en fin d'émission. Un mot peut-être sur l'album dont est extrait cette chanson, Quinte, Tous les Hommes, donc paru en 91. Vous allez le reprendre en intégralité mercredi prochain, oui, au 104 à Paris. Qu'est-ce que cet album signifie pour le reprendre aujourd'hui comme ça, en intégralité, en piano-voix?
Bien, déjà, en fait, je voulais, pour le concert du 104, je voulais reprendre les deux albums qui sont le plus éloignés l'un de l'autre, parce que justement, quand je parlais d'aventure musicale, je voulais montrer que le même gars pouvait faire à la fois un disque donc dans la veine de Tous les Hommes et un disque dans la veine de Métropolitain. Et cet album-ci, en particulier Tous les Hommes, c'était vraiment un qui tout double, une révélation pour moi. J'ai enfin osé, au début des années 90, me pencher sur la chanson française que j'avais reniée pendant une certaine période rock, on va dire. Et j'avais vraiment envie de retoucher cette chanson qui pour moi est notre country à nous, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui avait été totalement délaissé, qui avait même un côté ringard. Il y avait même l'accordéon était devenu totalement ringard. Et même moi, j'étais une espèce de Attila qui voulait tuer les accordéonistes. Et puis je me suis dit, mais non, c'est con, c'est vraiment notre identité à nous, quoi. Et on était partagé à ce moment-là entre le rock anglo-saxon et puis une grosse variété française assez confortable et plan-plan, quoi. Et il y avait ce truc-là qu'on avait laissé tomber. Donc je me suis dit, bon, j'y vais, je vais faire ça, ça me donne envie de.
Et ce truc-là, précisément, c'était qui pour vous?
C'était reprendre la chanson française à l'endroit où elle avant qu'elle se métisse, enfin dans ce qu'elle a de plus traditionnel. C'est-à-dire dans cette époque-là, justement, je faisais pas mal de bandes dessinées dans les années 80, ouais. et j'écoutais beaucoup les vieux Gainsbourg, les vieux Charles Aznavour, Jacques Brel et Becco et tout ça, mais j'écoutais pas les chanteurs, j'écoutais ce qui se passait derrière, parce qu'on écoute en France, on a toujours tendance à écouter le chanteur et on se fout ce qui se passe derrière. Mais il y a des arrangements formidables, des façons de faire des rythmiques, de faire des tourneries, comme on dit dans le milieu musical, qui était vraiment propre à la chanson et qu'on a totalement oublié avec le rock. Et j'avais envie de réemprunter ça. Donc je suis parti là-dedans en me disant, là, c'est vraiment qui tout double. Soit je fais un disque qui va surprendre tout le monde dans le bon sens du terme, soit on va dire, mais il est fou ce type. Et c'est ce qu'on me disait déjà auparavant, c'est pour ça que j'ai mis un certain temps à y arriver, au fait.
Didier Tronchet, il y a toujours des liens entre la musique et la bande dessinée. Pas mal d'auteurs qu'on a reçus ici étaient d'ailleurs des musiciens. Vous, quel est votre rapport à la musique? Vous êtes musicien de votre côté aussi?
Oh non, très peu, mais en tout cas, je suis en tant que dessinateur. Je ne peux pas dessiner sans écouter de la musique. Et surtout des chansons, je traite chansons françaises. Et alors, je trouve ça fascinant, cette chanson particulièrement, parce qu'on a un rapport vraiment étonnant avec les chansons, très émotionnelles. Et ça m'a remis absolument dans l'oreille cette époque, parce qu'elle est très attachée à une époque. Les paroles, tout ça m'évoquait un univers particulier que j'ai redécouvert plus tard. C'est assez étonnant pour moi. J'avais acheté ce disque sous la forme cassette, je me rappelle. Et ensuite, j'ai eu moi-même un enfant, mais peut-être 20 ans plus tard. Et ça m'est revenu, cette chanson. Simplement les paroles qui disent qu'on est pour les mômes, on est vraiment le summum. Et c'est une période formidable pour moi que j'ai redécouvert ensuite. Puis ensuite, mon fils est, comme le dit la chanson, devenu trop grand. Et voilà, ça a été fini.
Benoît.
À propos de méthode d'écriture, Jacques Higelin ici nous parlait de sa façon dont il compilait ses textes, parfois surlignés au stabilo dans des classeurs. D'autres, comme récemment Pierre Grier, l'auteur de Madame Rêve, nous expliquait lui qu'il fonctionnait par collage, par des bouts de texte. Qu'est-ce qu'il en est pour vous?
J'ai pas de technique, j'ai pas de discipline. C'est ce que je dis dans mon bouquin, dans la tête d'un chanteur.
Même si vous avez été adoubé par Étienne Rodagil, hein, dans les années 70.
Ah, mais ça change rien. En plus, j'étais adoubé avant de me sentir auteur. C'est lui qui m'a déclaré auteur, alors que moi, je
période Star Shooter.
Oui. C'est au premier 45 tours de Star Shooter qui s'appelait Quel Chris Baby, au secours. Donc, avec, vous voyez, quelque chose, un texte fort, rempli de littérature. Et lui m'a dit, je connaissais ce type, je savais ouais, qu'il avait écrit pour Julien Clerc. Bon, évidemment, j'avais un regard un peu ironique sur Julien Clerc à cette période-là, parce que j'étais un quepon, donc il fallait quand même que j'ai un certain détachement par rapport à ça. Mais quand même, me retrouver en face de Rodagil qui me dit, toi, tu es un auteur, ça m'a fait un drôle d'effet. Donc après, j'ai plus écrit tout à fait pareillement. Mais donc, j'ai pas de méthode, comme je dis dans le bouquin, donc... je change, ça dépend. J'ai longtemps écrit, comme souvent, sur des thèmes, des choses comme ça. Maintenant, c'est vraiment l'air du temps, c'est vraiment des accidents de parole qui m'intéressent. Et pour rejoindre ce que disait Jacques Higelin, et pour rejoindre encore le parallèle entre Tous les Hommes et puis l'autre album que je vais faire au 104, le Métropolitain. Métropolitain, c'était exactement ça, quoi. Métropolitain, quand je l'ai fait, c'était un truc inattendu pour moi. J'étais donc adoubé comme chanteur réaliste, néo-réaliste français, et on pensait que j'étais chez moi à écouter que du Georges Brassens. Or, je passais mes soirées dans les clubs électro, parce que c'était l'explosion électro française qui était formidable à ce moment-là. Il y avait une énergie, quelque chose qui me bottait énormément. Et ça m'a inspiré beaucoup, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, je piquais les flyers qu'il y avait à l'entrée, et au dos des flyers, j'écrivais des bribes de texte que m'inspirait la musique, et j'ai fait donc un peu le système de Higelin. Je suis arrivé en studio, j'ai improvisé un disque qui s'appelle Métropolitain, à partir de ces bouts de texte avec des musiciens qui faisaient tourner des boucles, et j'ai fait des chansons comme ça en une semaine.
Comme tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué, et voici ce que vous aviez choisi, Kent. Personnellement, j'aurais choisi les Dames de la Côte, mais manifestement, ce n'est pas la même chose plaisante. Qu'est-ce qu'on écoute et pour quelle raison ?
Ben, on écoute le générique de Manix, et on pourrait croire que c'est la nostalgie par rapport au vieux feuilleton, mais effectivement, il y a de ça, mais c'est surtout que j'ai découvert l'Allo Chiffrine à travers ce générique, et à travers le générique de Mission Impossible, et je suis un fan absolu de l'Allo Chiffrine, du travail de l'Allo Chiffrine en tant que compositeur de musique de film et de musique de feuilleton, et en tant que compositeur tout court, quoi. Si c'était à refaire, je voudrais être l'Allo Chiffrine, quoi. Franchement.
La dernière question, c'est à vous de la poser, Ken, puisque demain, dans le cadre de notre série d'émissions Chansons françaises, 40 ans dans le rendez-vous, nous allons recevoir Dominique A. Et j'aimerais savoir quelle est la question que vous aimeriez lui poser.
Alors, j'ai une question. Je voudrais savoir si tout comme moi, il a besoin parfois de se justifier auprès de certaines personnes dans le milieu musical de son appartenance à la fois à la chanson française et au milieu rock. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu lourd. Enfin, la question est souvent lourde. Voilà. Et puis, si ça l'embarrasse de répondre ça, je voudrais qu'il me laisse un exemplaire de son livre dédicacé à la librairie Passage, où je passerai après lui, deux jours après, à Lyon. Donc, lui, le 11 juin, et moi, je suis le 13 juin. Donc...
Quand vous parlez de se justifier, il y a eu plein de concerts à une période où vous passiez votre temps à vous justifier des chansons que vous étiez en train de devant le public. C'est-à-dire, c'était presque des meetings, les concerts à l'époque. Vous justifiez pour des questions politiques, pour des questions par rapport aux chansons, les changements de
Je me souviens au niveau du public, c'était vraiment à l'époque Star Shooter, ouais. Parce qu'effectivement très vite on a voulu s'orienter vers d'autres genres musicaux et puis surtout avec un humour qui était peut-être pas assez gaulois, on va dire. Donc il y avait beaucoup de ce qu'on faisait au second degré, les gens prenaient au premier degré, et il y a eu des moments un peu disons lourdingues en scène. Il y a ça. Après c'est effectivement, je suis souvent, enfin j'ai été souvent, parce que maintenant c'est acquis, je pense, obligé de me justifier par rapport à des choix de couleur musicale. C'est-à-dire que je vais faire Je ne suis qu'une chanson qui est très chanson française caribéenne presque, et puis après je vais passer à Bienvenue au club qui est rock et tout ça, et on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait tout ça. Je fais ça parce que ça me plaît, voilà.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Bolivie avec vous, Didier Tronchet, auteur et dessinateur multi-récompensé de bandes dessinées, l'inventeur de Raymond Calbut, né en 84, et en 89, suivi, c'était Jean-Claude Tergal, les deux losers magnifiques qui vous ont fait connaître. Qu'est-ce que d'ailleurs ces deux personnages parodiques et complètement loufoques ont pu raconter de ce que vous vouliez défendre en BD à l'époque ?
Oh, en tout cas, je ne sais pas si je voulais défendre quoi que ce soit. Je voulais simplement exister dans un genre qui me fascinait en tant que lecteur. Mais j'avais pas les moyens, je savais pas dessiner, c'est vrai. Je dis pas ça par coquetterie. Mes plans étaient souvent des plans coupés ici.
C'est-à-dire, plan américain.
J'avais du mal à dessiner les pieds. J'ai vraiment appris à dessiner en dessinant. Ce que je trouve pas mal d'ailleurs, ça m'a obligé à trouver mon style, on va dire. Parce que si j'avais été trop brillant au niveau de l'anatomie, si j'avais été un vrai virtuose, je pense que j'aurais peut-être fait un dessin plus convenu. Le mien, en tout cas, a une identité, même s'il n'est pas spécialement flatteur pour l'œil. Je sais qu'on le reconnaît, ça me suffit. Et c'est vraiment ce que j'ai préféré faire, un dessin reconnaissable.
Donc il fallait avoir des héros à la hauteur de votre dessin, qui n'était pas si fort que ça.
Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un personnage qui était un casanier, qui vivait dans un deux pièces cuisine. Et ça m'allait très bien. C'était mon deux pièces cuisine à moi, donc c'était mon frigo, c'était ma table en formica. En tout cas, c'était facile pour moi d'avoir le décor sous les yeux en permanence.
Manu.
Vous signez aujourd'hui avec Anne Cibran Le Monde du Dessous, chez Casterman, un récit politique sur fond de récit légendaire qui met en image le monde des Indiens des hauts plateaux boliviens. Donc l'histoire, c'est celle d'Augustin, qui est né, j'imagine, dans les années 50, dans un petit village au pied de la mine d'argent de Potosi, qui est perché à 4000 mètres d'altitude, une mine qui a dévoré, englouti plus de 8 millions de mineurs depuis que les conquistadors espagnols avaient décidé de l'exploiter, donc ça c'était au XVIe siècle. Le premier dessin qui ouvre la bande dessinée, c'est Augustin, jeune homme qui revient dans son village vide, un village cimetière, abandonné, et l'album devient alors le lieu de ses souvenirs, de son histoire, qui est une histoire assez tragique. Quelles sont les premières images qui vous sont venues pour cet album, qui est un album adapté du roman d'Anne Simon?
Oui, c'est justement quand elle écrivait ce livre, on était en Équateur, où on vivait depuis 3 ans, et elle avait fait une incursion en Bolivie au milieu de ses mineurs parce qu'elle avait cette particularité de parler le quechua qu'elle avait appris avant d'aller là-bas, et ça a ouvert toutes les portes parce qu'elle avait un contact très particulier avec les mineurs qui l'ont accueillie, qui l'ont protégée, avec qui elle a vécu un peu. Et ensuite, elle a ramené des bribes de son roman qu'elle me lisait, et moi j'ai visualisé assez facilement ces endroits où je suis allé aussi plus modestement. Et c'est au moment où elle me racontait son livre, où elle me lisait des extraits, que j'ai pu me dire, tiens, quel bel univers formidable que celui de ces Indiens qui ont une mythologie tellement visuelle, tellement belle et tellement naïve. Et cette naïveté était un peu celle de mon dessin aussi, précisément. Hein, genre, je me suis dit, tiens, moi, là, j'ai une certaine légitimité à raconter cette vision du monde avec mon trait élémentaire, qui est un peu celui d'un enfant, on peut dire, en tout cas, qui justifiait que c'était l'œil du narrateur.
Cette bande dessinée vient après Le Vertige de Quito, qui fait suite à un séjour, donc vous l'avez dit, de quelques années avec femme, enfant et chat, oui, en Équateur. Est-ce que ce changement d'horizon et de paysage et de couleur, j'imagine, a eu un impact sur votre dessin de manière générale?
Oui, mais je ne le savais pas quand j'y suis arrivé. Je ne pensais même pas être capable de dessiner quoi que ce soit sur cet endroit qui est assez étonnant. C'est un plateau à 2800 mètres, une ville tout en courbe et en pente et en descente, et avec une vision chaque jour plus différente de la plaine et de l'Amazonie tout en bas, du volcan au pied duquel on était. Donc je ne savais plus où donner de la tête. Et puis surtout, on était loin de mon deux pièces cuisine et de mon frigo. Donc j'étais tout perdu. Je ne savais pas par quel bout raconter cette histoire. Et j'ai donc pris le petit bout de la lorgnette qui était de raconter ma rue. Et heureusement, cette rue étant au bout du monde, ça me permettait de raconter le bout de ma rue comme le bout du monde. Et j'ai trouvé dans cette rue, finalement, une espèce de condensé d'Amérique du Sud avec ces personnages vraiment typiques, très forts, très chaleureux. Et puis aussi les décors, encore une fois. Et aussi, c'était un enchevêtrement de maisons, de briques et de brocs construits dans tous les sens. C'est une rue qui part du haut plateau et qui descend en flanc de colline jusque tout en bas, avec des virages invraisemblables. Voilà. Et puis surtout, les événements que j'ai connus là-bas, dans lesquels j'étais impliqué plus ou moins, il se passe toujours quelque chose là-bas, hein, précisément. Donc il y a eu des avions qui sont tombés pas très loin de chez nous, il y a eu des dérumbés, c'est-à-dire des effondrements sur la route, il y a eu un meurtre sous mes fenêtres d'une Française, malheureusement, que je raconte, qui est un épisode difficile à raconter pour moi. En tout cas, beaucoup de raisons de raconter cette rue, finalement.
Kent, je crois que vous connaissiez ce précédent album, hein, Le Vertige de Quito.
Oui.
Donc vous connaissez le dessin. Ah oui, élémentaire, il dit.
Oui,
mais il est tranché.
Oui, mais je suis d'accord.
Je suis complètement d'accord avec lui.
Je suis d'accord avec son avis. Non, mais j'étais chopé par cet album sur l'Équateur. Comment s'appelle-t-il déjà,
le Vertige de Quito.
Voilà, le Vertige. Voilà. D'abord parce qu'on me l'a offert. C'est pas moi qui l'ai découvert dans une librairie. C'est un ami qui me l'a offert. Je dis, mais pourquoi tu m'offres ça? Et puis il me dit, tu vois, ça va te plaire. Et ça m'a plu, mais énormément, quoi, pour tout ce qu'il raconte. Je vais paraphraser si.
Alors, ce qui frappe à la lecture de ce nouvel album, ce sont les couleurs, notamment. Vous utilisez une gamme chromatique très large, très vive, très variée. Vous plongez des planches entières dans des couleurs aquarellées, orange, bleu, vert. Vous changez de couleur, d'ailleurs, même d'une page dans une même page. Qu'est-ce que l'usage des couleurs devait traduire de l'histoire que vous étiez en train de raconter? Est-ce que vous êtes votre propre coloriste?
Oui, absolument. C'est un défi que je me suis lancé aussi. Je fais pas des couleurs non plus très académiques. Et effectivement, c'est purement des couleurs subjectives. Pour moi, la couleur doit raconter l'histoire autant que le dessin. Et c'est surtout des émotions, des ambiances, des choses que je ressens. Et la couleur vient naturellement leur donner du sens. C'est toujours surprenant pour moi aussi. Je travaille à l'ancienne, pas du tout sur ordinateur. Et donc, j'utilise des techniques d'aquarelle, des choses comme ça, avec l'eau qui part dans tous les sens, la couleur qui se met à se mélanger, des tas d'accidents. Ken parlait d'accidents tout à l'heure en ce qui concerne les paroles. Je pense que j'adore l'accident, de toute façon, par définition, parce qu'il nous emmène dans un territoire qu'on soupçonnait pas. Et quelquefois, les contrastes de couleurs sont venus de choses, de réparations, de tentatives de sauver la page. Et à l'arrivée, il y a le miracle.
Manou.
Vous l'avez dit, Didier Tronchet, vous avez commencé par être journaliste, mais je crois qu'il y avait eu quand même un premier album bien avant ça, enfant, très jeune, dans un cahier d'école qui se terminait par le mot « fin » en lettres de feu. Je ne sais pas si c'est exact. De quoi était-il question dans cet album non paru, donc?
Alors ça, je ne sais pas. Vous avez trouvé, vous avez été fouillé mes malles chez moi. Vous êtes allé chez moi et vous avez fouillé mes vieux.
Vous dites
mes
que vous avez beaucoup, vous dessiniez beaucoup, beaucoup, en tout cas enfant, avant de choisir d'être journaliste. Et vous aviez même mené à bout un album entier.
Oui, en fait, je dessinais Tintin. Est-ce que c'est ça dont il est question? Parce que je redessine les albums de Tintin. Je me disais, c'est dommage qu'il ne dessine plus Hergé. C'est pas mal ce qu'il faisait. Donc je me suis
dit, les 62 planches.
Et j'ai fait 62 pages en reprenant, en décalquant le Tintin dans toutes les positions, parce que finalement sur une vingtaine d'albums on peut trouver toutes les positions à disposition. Donc j'ai refait mon propre album moi-même avec mes personnages, enfin les siens plus exactement, qui devenaient les miens. Ça c'est la force de l'enfant, hein, de s'attribuer tout ça. Et à l'arrivée ça faisait une histoire très étrange avec un mélange, parce que quand on est enfant finalement on reproduit beaucoup beaucoup. Et moi j'ai fait en un seul album une espèce de mélange des cigares du pharaon qui partaient sur l'île noire. Enfin bon, à l'arrivée c'est Mais j'adorais ça parce que pendant le moment où je dessinais, j'étais dans les albums de Tintin, j'étais immergé complètement et j'étais avec lui. Et c'était mon camarade. Moi, j'étais Milou.
Vos premiers dessins, vous, ils étaient sous l'influence de quel dessinateur, Kent?
C'était le journal de Mickey, je pense, quand j'étais gamin, voilà. Et tout, comme Didier Tronchet, j'ai fait aussi un album
de Tintin.
D'Astérix, mais comme ça sur un cahier Clairefontaine. Et c'était Astérix au Groenland ou en Antarctique, que ça me permettait de faire que du blanc. Donc voilà, on voyait un vague personnage qui marchait dans la neige avec Obélix derrière. Mais je l'ai pas gardé, hein. Franchement, je l'ai pas gardé.
Manou.
Les premiers dessins publiés, Didier Tronchet, je crois que ce sera dans Métropoche, qui était une publication d'information culturelle lilloise dont vous avez été rédacteur en chef au début des années 80 à peu près. Donc ça sera Raymond Calbut. Né donc, comme vous dites, sans bagage technique efficace, enfin relativement élémentaire. Du coup, vous qui avez appris à dessiner en dessinant, est-ce que ce personnage-là a évolué techniquement?
Ah oui, absolument. Oui. D'ailleurs, ce journal, c'était précisément la raison pour laquelle j'ai pris un pseudo, parce que j'étais effectivement responsable du journal. Et puis, je passais moi-même dans mon propre journal des bandes dessinées que je faisais. C'était un peu lourd, donc j'ai choisi de prendre un pseudo voilà, pour faire illusion. Effectivement, au début, j'avais vraiment le plan américain dont on parlait tout à l'heure, juste et des voix off, comme c'était sa femme. Il parlait avec sa femme qui était off, parce que je savais pas dessiner les femmes non plus. Donc, je partais très loin pour arriver sur les hauts plateaux boliviens quelques 30 années plus tard. Effectivement, il y a eu beaucoup de chemin. Mais c'était très intéressant pour moi de constamment repousser les limites. Moi, je trouve que les limites sont très excitantes parce qu'elles soit on les accepte, soit on s'amuse tout le temps à les contourner, à passer par-dessus ou sur le côté et à les repousser tout le temps et découvrir des choses dont on pensait pas qu'on était capable.
Il y a encore des dessins qui vous résistent, enfin des éléments de dessin. Je sais pas, par exemple, quelqu'un une fois nous a dit ici qu'il détestait dessiner des voitures, par exemple.
Les pieds, ça va mieux.
Les pieds aussi.
Ça va mieux.
Ah ouais. Les pieds, ça va beaucoup mieux. Ouais. Alors les voitures, non, j'aime pas du tout. L'objet, non, le plus dur, c'est quand même le vélo. Le vélo avec l'espèce d'ellipse de la roue avant, c'est très dur.
Kent, vous, il y avait des choses que vous détestiez dessiner?
Le vélo, ça c'est clair. Là, le vélo. Par contre, les voitures, oui, parce que j'adorais lire Michel Vaillant, donc je crois que je savais mieux dessiner les voitures que les personnages à une époque.
Il y a eu un passage au Matin de Paris.
Oui.
Je me demandais ce que la presse écrite avait pu vous apporter et pourquoi, par exemple, vous n'êtes jamais passé du côté du dessin de presse. Est-ce que ça a pu, à un moment donné, vous intéresser quand même?
Jamais. Ça m'a intéressé parce que je suis passé par l'école de journalisme de Lille. J'ai fait ma thèse sur le dessin politique avec des interviews de Cabu, Wolinski, Reiser et autres. Et puis, j'ai compris que c'était pour moi l'art suprême presque. D'ailleurs, je trouve que la chanson est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire, retrouver à chaque fois l'essentiel en très peu de mots ou très peu de traits pour donner à comprendre. Ce minimalisme-là m'impressionne beaucoup. Moi, je dessine des histoires avec beaucoup de cases, beaucoup de textes. J'ai besoin de 62 pages, 60, pour les raconter. Et j'admire beaucoup les gens capables de réunir en un seul dessin.
Manou.
Alors justement, comme à tous nos invités, Didier Tronchet, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Voilà, c'est pas un feuilleton américain. Mais bon, ce sont les bruits de Kalachnikov de Charlie Hebdo, évidemment. Je voulais pas revenir là-dessus de manière trop lourde, mais simplement, je suis un tout petit peu énervé en ce moment de cette façon dont on a tous, enfin, on voit autour de nous des gens qui tout à coup prennent du recul par rapport au mouvement extraordinaire qui s'est fait pour défendre la liberté d'expression. Et je sais pas, comme on est On est un peuple qui aime bien être rebelle tout le temps. Maintenant, on est rebelle par rapport à la rébellion, c'est-à-dire qu'on dit « Ah, moi, je ne suis pas Charlie ». Voilà, il y a cette espèce de distance qui m'énerve un petit peu maintenant. Et une fois qu'on a eu tous communié, on trouve ça un peu ridicule ou je sais pas. Peut-être que ça l'est, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment beau. Autour du dessin, qui est quand même le mode d'expression le plus minimaliste qui soit, le plus humble finalement, qui est cette communion pour défendre ça, ça a été, et la liberté d'expression, ça a été formidable. Pourquoi maintenant dire, ah ouais, mais non, moi je vais chipoter, je suis pas Charlie pour telle ou telle raison, je trouve ça dommage. Voilà, c'était juste pour ça.
Est-ce que vous, suite à ces événements, vous avez dessiné quelque chose? Même si vous n'êtes pas dessinateur de presse, est-ce qu'il y a un dessin qui vous est venu suite aux événements?
Incapable de dessiner, le jour même de toute façon incapable de rien faire, et de dessiner. Alors je serais tombé dans ce que j'ai vu mille fois, les crayons contre les Kalachnikov, et je voulais absolument pas, parce que eux-mêmes auraient trouvé ça assez pathétique. Les gens qui l'ont fait, je le comprends, c'est difficile de faire un dessin sur un thème aussi dur, mais je serais tombé moi-même là-dedans, donc par hommage aux disparus, je les aurais épargné ce cliché.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, nous allons nous quitter pour cette première émission de la semaine 40 ans de chansons françaises avec
Kent, toujours accompagné au piano par Marc Haussmann pour Notre Amour, une chanson extraite cette fois-ci de son dernier album studio, Le Temps des âmes, en direct sur France Culture Studio 108. Kent, c'est à vous.
J'ai cru, mon amour, que l'on irait si loin. Tant d'autres à mi-parcours se sont lâchés la main. Fatigués de se voir, lassés de se connaître. Ils vident les tiroirs, enjambent la fenêtre. Qu'avons-nous, mon amour, pour résister au temps? Quand d'autres se déchirent ou vivent en s'ignorant, peut-être avons-nous fait le chemin à l'envers. Qui sommes-nous, mon amour, pour ne pas être amer? Vu d'avion notre amour pour ceux qui le survolent. Ressemble à une plaine, un bien paisible atome. Nous nous contenterions d'une mièvre romance, sans avoir jamais eu de zone de turbulence. Pourtant nous avons eu des glaciers, des déserts, des éboulements de ciel, des tensions d'avant-guerre. Et le doute nous traque encore au fil des ans, mais ravive en nos corps l'envie de confluent. Qu'avons-nous, mon amour, qui coule dans nos veines, pour n'avoir jamais cédé au chant de haine? On les entend partout, on les entend pourtant. Nous ne sommes ni sourds, ni saints, ni morts vivants. Nous n'avons jamais cru tout nos grands amours, celui des rêves bleus sous la lune glamour. Tu ne fus jamais mienne et je ne fus que moi, libre d'être nous-mêmes et notre seule loi. Qui l'eût cru, mon amour, que l'on irait si loin, si loin, si loin. Tant d'autres à mi-parcours se sont lâchés.
Thank you. Quinte, accompagné au piano par Marc Haussmann en direct du studio 108 de la Maison de la Radio.
Je fais ça parce que ça me plaît.
Ce que je trouve pas mal d'ailleurs, c'est que ça m'a obligé à trouver mon style, on va dire.
Je fais ça parce que ça me plaît.
Et c'est assez dangereux.
Je fais ça parce que ça me plaît.
Oui, absolument. C'est un défi que je me suis lancé aussi.
Je fais ça parce que ça me plaît.
Et à l'arrivée, il y a le miracle.
Merci à nos invités. Kent, le coffret de 14 CD est sorti sous le label Capitol Universal et Dans la tête d'un chanteur, apparu aux éditions du Castor Astral. Je signale également que vous serez en concert mercredi sur la scène du 104 à Paris. Didier Tronchet, Le monde du dessous, apparu aux éditions Casterman, et Les vertiges de Quito, c'est aux éditions Futuropolis. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Manque-moi, manque-moi, manque-moi moins, s'il te plaît, je voudrais. Pourtant, Minique, je n'aurais rien fait de déplacé. C'était le lit de ma fille.
Ouais, faut pas pousser.
Philippe Catherine, il l'appelle Minique, mais nous on l'appellera Dominique. Dominica, demain, sera notre invitée dans le cadre de notre semaine 40 ans de chansons françaises, avec à ses côtés l'immense compositeur Zbigniew Prezner. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manu Farine, Alexa Tuenda et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Svez, à la prise de son Thibaut Germez et Alex Dang, et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.